Vraiment, ces lectures tournent autour du thème du prophétisme. Alors, quelquefois, on a une idée erronée d'interprétation du mot prophétisme. Prophète, quelquefois, pour des Français, ça signifie aujourd'hui être un voyant qui prophétise l'avenir, le futur. Le futur, sorte d'une personne qui aurait été formée à lire dans les boules de cristal. C'est pas ça du tout dans la Bible. Le prophète, c'est celui qui profère les paroles de Dieu, donc qui est investi par l'Esprit de Dieu. Mais alors, quelquefois, dans notre culture aussi, le prophète, c'est celui qui profère tellement qu'il invective. Il suffit de voir certaines représentations artistiques à travers les époques. Dans nos églises, ou bien, je me rappelle, au Liban, une représentation d'Élie, le prophète, en tout cas quelqu'un de vigoureux, quelqu'un presque d'insolent. Alors c'est vrai que le prophète se distingue de la masse. On le voit ici dans les Écritures. Il y a dans la première lecture, le Seigneur constate auprès d'Ézéchiel que son peuple est devenu une engeance de rebelles, et pour qu'ils écoutent la parole du Seigneur, il envoie Ézéchiel, et il dit, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux, un esprit différent, des paroles différentes, qui représentent vraiment l'esprit du Seigneur. Oui, oui, le prophétisme se manifeste comme cela, dans le Premier Testament aussi, dans le Nouveau Testament de manière étonnante, puisque au départ, dans cet évangile de Marc, les auditeurs sont frappés par l'enseignement de Jésus. D'où cela lui vient? Quelle sagesse! Quelle sagesse! L'Esprit de Dieu, peut-être, oui. Mais quand ils apprennent que c'est un garçon du pays qui vient de leur parler, ils le méprisent. Et Jésus commente en disant, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Pas facile de porter l'esprit du Seigneur dans un contexte. Pas facile. Il y a un mois et demi, nous nous trouvions avec l'ICM à Palerme. Hasard de la géographie, deux fois à Palerme, mais pour deux événements complètement différents. En mai, c'était à la European Academy of Religions, où vous avez des instituts théologiques et des universités qui portent de différentes religions du monde entier, surtout d'Europe, qui se rencontrent dans des panels, donc dans des carrefours de niveau académique. C'était il y a un mois et demi. Et puis il y a deux semaines, c'est Marseille qui, avec Naples, a organisé une grande rencontre de toutes les institutions méditerranéennes, 35 à peu près, dont des universités de Split, université de Grenade, etc. Et le cardinal est venu aussi y participer, puisque ce sont des questions méditerranéennes. Mais il y a un mois et demi, entre autres, nous sommes intervenus à un panel où se trouvaient des chercheurs arabes, des chercheurs musulmans, des chercheurs turcs, des chercheurs israéliens, juifs. Et un des panels dans lequel nous intervenions, c'était la question du prophétisme. En fait, toutes ces religions abrahamiques remontent au temps des prophètes. Élie, c'est vraiment le maître, le grand modèle, et c'est le premier. Encore sur le mont Carmel, on le voit. Aujourd'hui, il y avait des petites grottes habitées par les prophètes, des disciples d'Élie, et ils étaient éduqués au prophétisme. Et durant ce panel, vous imaginez bien que du côté académique juif, on évoquait les grandes figures du prophétisme juif. Du côté musulman, on évoquait les grandes figures du prophétisme musulman, dont Mohammed, et des interprétations variées, différentes des prophètes de notre premier testament. Et du côté chrétien aussi, on évoquait le prophétisme en n'excluant pas Jésus de nos considérations. À un certain moment, chacun invoquait la vigueur des prophètes. Ils parlaient clair, ils parlaient franchement, ils étaient du côté des pauvres, etc., etc. Mais vous imaginez que dans le contexte actuel, eh bien le prophétisme venant d'Israël, ou venant de Palestine, ou venant de Turquie, ou venant de pays chrétiens, était différent. Les prophètes revendiquaient des choses très variées, très différentes et contradictoires. À tel point que la question s'est posée, mais alors qui est prophète? Qui porte le prophétisme aujourd'hui? Du côté chrétien, on pouvait invoquer les compétences et la valeur aussi d'un grand bonhomme. Ah, il a été vraiment dénaturé par notre tradition chrétienne. Mais dans l'équipe de Jésus, qui était une équipe de prophètes, parce qu'il essayait de partager l'esprit de Jésus, l'esprit de l'Évangile, il y avait quelqu'un de vraiment doué. Qui s'était vraiment mis du côté des pauvres, qui s'était vraiment mis du côté de la libération des peuples opprimés, de l'occupant, des Romains, et puis qui avait des relations intéressantes avec les uns les autres, même avec les grands prêtres, il savait leur parler. Ce brave homme, c'était Judas. C'était un brave homme, parce qu'il se sentait investi par l'esprit des prophètes. Il se sentait investi par cette dénonciation du mal. Et il voulait s'engager aussi, des militants pour ces causes, vraiment. Dommage qu'on lui ait fait cette mauvaise publicité dans notre tradition chrétienne. Mais vraiment, quelqu'un qui était convaincu de porter l'esprit prophétique. Où se trouvait l'esprit du Seigneur dans cette équipe de Jésus, cette équipe où se trouvait Judas? Parce que Jésus, on lui a proposé quand même à un certain moment un rôle politique. Pourquoi n'en a-t-il pas profité? Pourquoi n'a-t-il pas saisi l'occasion au nom de son peuple pour le libérer de l'occupant? On voulait le proclamer roi. Et vous vous rappelez, il s'en va, il sait ce qu'il part. Pourquoi? Pourquoi a-t-il refusé? Et après la Pentecôte, à l'Ascension, les disciples, toujours orientés à cette libération du peuple opprimé par les Romains, le disent au pied du Christ qui est sur le point de monter au ciel, l'Ascension, disent, mais enfin, quand est-ce que tu nous libéreras? Et lui, il leur dit, l'Esprit viendra sur vous. L'Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins dans le monde entier. Viendra le temps où de la libération. Viendra le temps, mais on ne sait toujours pas quand. Pourtant, l'Esprit, il leur promet, la Pentecôte, 9 jours plus tard, ils reçoivent l'Esprit du Seigneur, ils deviennent prophètes à la Pentecôte. Il s'agit de porter l'Esprit de Jésus. Alors, il y a bien eu la critique de certains de ses disciples aussi, qui disent, mais enfin, Jésus, Parce qu'au moment où il leur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il y en a un, je crois que c'est Thomas. Il lui dit « Mais enfin, oui, enfin, tu nous dis que tu es le chemin, mais on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où tu vas. Et tu oses nous dire que tu es le chemin ?» Ils ne savaient pas où ils allaient. Parce que ce n'était pas la libération politique. C'était pas, il n'a guéri que 10 lépreux, ce n'était pas non plus la guérison de tous les lépreux. Mais qu'est-ce qu'il voulait, Jésus? Qu'est-ce qu'il visait? Et les disciples, où allaient-ils? Dans ces groupes de prophètes, hein, dans cette équipe de prophètes, c'est lui qui portait l'Esprit, c'était lui le Christ. Et son Esprit montre des dynamiques qui sont vraiment clivantes par rapport à ses disciples qui pensaient être, comme Judas, qui pensaient être investis par l'Esprit qu'il voulait proclamer et proférer. Son Esprit le conduit sur une croix où il craindra même d'avoir été abandonné par son Père et par son Esprit. Paul va suivre ce Christ étrange et il dira « Je voulais être fort avec mon cheval, je voulais annoncer plein de choses, je persécutais même les disciples de Jésus et puis j'ai été désarçonné. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir son Esprit et je me suis rendu compte que c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est quand je perçois ma faiblesse. » Et non pas ma force toute puissante, mais quand je perçois ma faiblesse, c'est là que je deviens fort et que je porte l'Esprit. Et comme par hasard, on va conclure là-dessus, mais au moment où tout le monde se prend pour des prophètes avec une opiniâtreté folle, folle, on se disait entre juifs, musulmans et chrétiens à Palerme, après tout, il faudrait peut-être que nos écoles de prophètes soient une école de prophètes où on apprenne à se dire les choses avec bienveillance pour voir ce qu'il en sort d'un dialogue. Eh oui, parce que Jésus, en fait, est témoin de l'esprit du dialogue avec le Père, l'esprit du dialogue, l'esprit de la bienveillance. Et en fait, il oblige tous les baptisés qui deviennent prophètes par le baptême, il les oblige à être une communauté. Une communauté qui apprenne à dialoguer, une communauté qui apprenne à percevoir l'Esprit tout en dialoguant et en essayant de le discerner ensemble. C'est sans doute cela aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, l'esprit du dialogue du Fils avec son Père et avec ses disciples, plutôt que de polariser. Réapprendre à dialoguer, alors sans doute serons-nous témoins de l'esprit du dialogue éternel. Et là, nous serons prophètes pour notre temps.